je suis Christian Lacombe et dans un brin d'histoire, j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des pionniers du pic de Midi de Bigorre. Le pic de Midi de Bigorre est situé dans les Hautes-Pyrénées et atteint 2876 mètres. Aujourd'hui, c'est un observatoire astronomique et un relais météorologique et aussi un relais de télévision. Le pic est connu depuis l'Antiquité. Les mythologies pyrénéennes et grecques sont mêlées. Les Pyrénées seraient le tombeau de Pyrène, morte de trop avoir aimé Héraclès. Et de leur amour était né Python, serpent mythique qui garde le tombeau de la belle Pyrène. Sa tête, dit-on, se trouve à Gavarnie, et sa queue au pic de Midi de Bigorre. Au pied de la montagne, dans la vallée, vivaient les légendaires pâtres Milaris et Béliot. Déjà, dès le néolithique, le pic était parcouru et une pointe de flèche a été retrouvée près du col de Saint-Cours. L'aventure du pic de Midi commence au XVIIIe siècle. François de Plantade y fait des observations astronomiques. Il y monte à plusieurs reprises. Il étudie pour la première fois de façon scientifique la couronne solaire lors de l'éclipse de 1706. Remonte en 1741, dans le but de dresser une carte des diocèses du Languedoc et pratiquer à des relevés barométriques. Le 26 août, gravissant la montagne, il meurt au col de Saint-Cours, sextant au poing, disant « Ah, oh, que tout ceci est beau !» En 1787, Louis Ramon de la Carbonnière se laisse déborder par l'émotion. Ici, on n'est pas hors du monde. On le domine, on l'observe. D'où déjà l'idée d'en faire un observatoire d'altitude, proposition du docteur Arnaud Costala en 1852, médecin à Bagnères-de-Bigorre. Il implante une petite hôtellerie à 2378 mètres, on lui donnera le nom de l'astronome Plantade, mort en 1741. Dans ce 19e siècle, nous avons déjà parlé lors de notre émission sur le baron de la Susse de l'engouement au pyrénéisme de ces romantiques, amoureux des Pyrénées, comme Henri Russell, l'anglais Charles Pack, Eugène Truta, qui était directeur du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, Frank Schrader, le géographe. Il y a là une soif de recherche, d'aventure, mais aussi d'absolu. Dans un deuxième temps, Arnaud Costala parle d'installer un pavillon au sommet. ceci pour admirer le soleil, son lever, son coucher, et réaliser des observations météorologiques. Appuyé par la société Ramon, composée de tous les éminents spécialistes des Pyrénées, il y a aussi d'ailleurs le maire de Bagnères, l'anglais Farman Maxwell et son assistant, les premiers à photographier une éclipse du soleil, et le comte Charles Champion Dubois de Nansouty, qui est un militaire très impliqué. Malheureusement, l'hiver suivant, une avalanche emporte l'hôtellerie du col de Saint-Cours. On reconstruit donc ce refuge dans un endroit mieux protégé des avalanches. Terminé 4 ans plus tard. Le refuge reconstruit, c'est une étape vers le sommet. On peut y réaliser quand même des observations, puis monter au sommet, 500 mètres plus haut, et redescendre pour s'y mettre à l'abri. En 1860, on peut déjà procéder à des relevés météorologiques, et de là, monter au sommet. On peut ainsi photographier une éclipse de soleil, le 18 juillet. Alors que les montagnes recouvrent toute la plaine. Sous l'impulsion de tous ces scientifiques, on lance officiellement le projet de l'observatoire du Pic le 3 juin 1867. On prévoit tout d'abord un chemin charretier depuis le col du Tourmalet. 2 tronçons, un de 2%, l'autre de 15%. Le colonel de Nansouty apporte une somme de 1000 francs pour la réalisation de l'observatoire. La guerre contre la Prusse anéantit ses projets et Arnaud Costelat, la cheville ouvrière, meurt peu après, en 1871. De Nansouty, entre-temps, est devenu général. À 55 ans, il prend sa retraite et part se reposer à Tarbes, puis Bagnères. C'est un personnage impulsif, à forte personnalité, et qui s'accroche à son projet et s'investit à fond. L'ingénieur Célestin Xavier Vossenat est un membre fondateur de la société Ramon. Il est ingénieur venu de Bagnères pour l'exploitation du lignite d'Aurignac et le cuivre de Souloum. Les deux hommes ont une certaine inimitié, mais ils savent taire leurs différends pour arriver au terme de leur projet. Depuis l'hôtellerie de Saint-Cours, le général de Nansouty va établir de nombreux relevés météo. Il va s'y établir avec du personnel qu'il recrute. Un homme de peine pour les travaux et les approvisionnements pour l'hiver, ainsi qu'un de ses sous-officiers, ancien instituteur, Bailac, et sa chienne Mira. Le général a tout prévu au niveau de l'intendance. L'hiver 1874-1875 est particulièrement rigoureux. Des tourmentes de neige enfoncent les ouvertures. La porte d'entrée cède. Profitant d'une accalmie, le groupe tente de rejoindre la vallée. Après 15 heures de marche, ils arrivent à Grippe, sains et saufs. Thank you. personne ne se décourage, surtout pas le général de Nansouty. On remonte au col de Saint-Cours dès le 1er juin 1875. Dès lors, on renforce le bâtiment qu'on ceinture de murs. On y installe des instruments protégés des animaux et des bergers. On commence à réaliser les premiers relevés météo. On communique aussi des articles avec la Gazette et le Monde Illustré. Nos hommes se préparent à une réalisation bien plus importante, installer un observatoire 500 mètres plus haut au sommet. Dès les souscriptions attendues, arrivant enfin, on commence les travaux au sommet, à l'été 1875. Là, on se heurte à une roche extrêmement dure, que l'on doit creuser sur 3 mètres de profondeur. On dégage ainsi, à la baramine, une superficie de 300 mètres carrés, ce qui épuise les ouvriers et augmente le coût, qui devient excessif. 3 fois plus cher que prévu. Les ânes et les mulets sont fourbus. Plusieurs chutent avec leur chargement. Et 2 architectes ingénieurs abandonnent. Les ouvriers du pic sont mal payés. 60 à 80 francs par mois, comme dans la vallée. Mais ils sont nourris et logés. En 1878, se termine l'ouest de l'observatoire. Les caravanes de mulets continuent à monter les matériaux et les outils nécessaires. L'entrepreneur des travaux est une femme, Lucie Abadi. C'est une femme de caractère qui conduit les ouvriers sur le chantier. Infatigable, elle assure aussi la cuisine. Son mari, lui, restant dans la vallée pour préparer les matériaux, sable, ciment, etc. Les Abadi sont maçons à Beaussens, près d'Argelès, et se plaignent du retard dans les paiements et se heurtent aux ingénieurs. Le général, lui, donnera le complément sur ses deniers. L'observatoire du Pic du Midi se termine en octobre 1881. Après 7 ans passés au refuge de Saint-Cours, le général Charles Champion de Nansouty prend possession de son observatoire. C'est un véritable succès qui attire tous les pyrénéistes romantiques amoureux des sommets. L'intérieur est douillé, bien chauffé, amical et avec une certaine mondanité. Pourtant, l'accès est difficile. La rudesse du climat entraînera la mort de 3 porteurs pris dans une avalanche en 1882. Le gouffre financier, la société Ramon va proposer à l'État de reprendre la possession du lieu, ce qui sera approuvé. Célestin Xavier Vaucenat sera le nouveau directeur, ainsi que le général de Nansouty, directeur adjoint. Après 3 ans de vie au sommet, le général se retirera à Dax en 1885. Vaucenat, lui, victime d'une crise cardiaque au sommet en 1891, sera péniblement descendu dans la plaine. Il mourra peu après à Bagnères. Ces 2 hommes ont toujours su taire leurs différences afin de mener à bien leur projet. Grâce à leur volonté opiniâtre, l'observatoire du Pic du Midi entre dans l'époque moderne. En 1905, les coupoles et instruments astronomiques sont installés. Puis viendront les antennes. d'autres bâtiments aussi. On observera les plus beaux clichés de la Lune. Et on y accueille aujourd'hui les visiteurs au moyen d'un téléphérique dans ce merveilleux vaisseau des étoiles. Je vous remercie. Cette aventure nous est contée lors de la visite au sommet, mais aussi dans un ouvrage écrit par Santiago Mendieta, Histoire vraie à Midi-Pyrénées, 2007.
Mai mi attegno.
Retrouvons-nous pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5 FM.